Chapitre 14. Orbite martienne basse. Manmut réactiva ses systèmes et procéda à une rapide estimation des dégâts. Aucun de ses composants, organiques ou cybernétiques, n'avait subi de dommages irréparables. L'explosion avait entraîné une dépressurisation rapide de 3 de ses ballasts avant, mais les 12 autres étaient intacts. Il consulta ses horloges internes. Il était resté inconscient moins de 30 secondes avant la réactivation et il était toujours connecté à son submersible par les bandes passantes habituelles. La Dame Noire lui rapporta qu'elle subissait un roulis monstrueux, que sa coque était légèrement fissurée en plusieurs endroits, que ses systèmes de surveillance étaient saturés, sa température au-dessus du point d'ébullition, etc. Mais il n'y avait rien de grave au point d'exiger son attention pleine et entière. Manmut relança les connexions vidéo, n'obtenant pour sa peine que des images de la soute incandescente du vaisseau, des portes de celle-ci et, derrière lesdites portes, du firmament tournoyant.
Orfu ?
Aucune réponse, ni sur le canal général, ni sur aucun des canaux Mazer ou faisceaux cohérents. Même pas des parasites. Le sas était toujours ouvert. Manmut attrapa un module de propulsion personnelle, des rouleaux de cordes en microfilaments incassables et sortit de sa cabine, luttant contre les effets du roulis en s'accrochant à des prises que des années de plongée en eau profonde lui avaient rendues familières. Une fois parvenu près de la coque de son submersible, il vérifia que les portes de la soute étaient ouvertes, évalua l'espace qui lui serait nécessaire et saisit certaines des machines soigneusement empaquetées de Koros pour les jeter par-dessus bord, les regardant s'abîmer dans le métal fondu et le plasma étincelant du vaisseau spatial en perdition. Il ne savait pas s'il se débarrassait ainsi des armes de destruction massive que Koros avait compté emporter à la surface de la planète,
à bord de mon navire,
songea-t-il toujours aussi outré à cette idée, ou d'un équipement de survie qui lui serait nécessaire sur Mars. Pour le moment, il s'en fichait. Il lui fallait de la place. Après s'être solidement arrimé à la coque de la Dame Noire, Manmut s'envola dans l'espace, prenant soin de ne pas se cogner aux portes fracassées du vaisseau. Une fois au dehors, immobile à une centaine de mètres du bâtiment tourneboulant, il se retourna pour obtenir un premier aperçu de la catastrophe. C'était encore pire qu'il ne le pensait. Comme l'avait dit Orfu, tout l'avant du vaisseau était anéanti. La salle de contrôle et tout ce qui se trouvait à plus de 10 mètres. C'était comme si cette partie du vaisseau n'avait jamais existé. Seul un nuage de plasma en voie de dissipation témoignait de l'existence de Koros 3 et de Ripo. Le reste du fuselage était fissuré et fragmenté. Manmut ne pouvait que deviner le cataclysme qui se serait produit si les fusiopropulseurs, les réservoirs d'hydrogène, le collecteur Matloff-Fenelly et autres engins n'avaient pas été largués bien avant cette attaque. Les explosions secondaires n'auraient pas manqué de l'évaporiser, Orfu et lui.
Orfu !
Manmut utilisait à présent les ondes radio en plus du faisceau cohérent, mais l'antenne réflecteur du relais Mazer avait été arrachée à la coque. Il ne reçut aucune réponse. S'efforçant d'éviter les débris matériels, les gouttes de métal en fusion et les vrilles du nuage de plasma en expansion, tout en donnant du mou afin de ne pas se retrouver entortillé autour du vaisseau mourant, Manmut activa son module de propulsion pour passer au-dessus de la coque. Le vaisseau était animé d'un tel mouvement, Mars ne cédait la place au firmament que pour réapparaître aussitôt, qu'il dut fermer les yeux et se guider au radar. Orfu était toujours dans son berceau. L'espace d'une seconde, Manmut se laissa aller à la joie, l'éco-radar lui montrait son ami intact et à sa place, puis il activa ses yeux et découvrit le carnage. L'explosion qui avait annihilé la poupe avait aussi brûlé et fissuré la coque du vaisseau jusqu'au niveau où se trouvait Orfu, et ainsi que l'avait rapporté l'Ionien, calciné et lézardé sa carapace sur un tiers de sa longueur. Ses manipulateurs avant avaient disparu, ses antennes comme avant manquaient à l'appel, ses yeux étaient anéantis. Des fissures de 3 mètres de long étaient visibles sur son armure.
« Orfu !»
appela Manmut sur le faisceau cohérent.
« Rien. »
Mobilisant toutes ses facultés de calcul jusqu'au dernier mégaoctet, Manmut évalua tous les vecteurs en jeu et bondit en direction de la coque, donnant de ses 10 réacteurs pour ajuster sa dangereuse trajectoire jusqu'à se retrouver à 1 mètre du but. Attrapant le pistolet passé à sa ceinture, il planta un piton dans la coque, puis enroula sa corde autour de lui, veillant à ce qu'elle ne s'en mêle pas. Il allait devoir se dégager dans une minute. Tirant sur la ligne, oscillant à la manière d'un pendule, Manmut décrivit un arc qui le conduisit dans la niche d'Orphu, quoiqu'il fût désormais plus approprié de cratère carbonisé. Il s'accrocha à la carapace d'Orphu, laissant pendouiller ses jambes au-dessus de lui, puis plaqua sur le corps un porcom adhésif à l'emplacement naguère occupé par ses yeux.
« Orphu ?»«
Manmut ?» La voix d'Orphu sonnait rauque mais forte. Elle exprimait surtout la surprise.
« Où es-tu ? Comment as-tu fait pour me contacter ? Tous mes systèmes com sont inopérants. »
Manmut éprouva une joie comme n'en avait éprouvé que de rares personnages shakespeariens.
« Je suis tout près de toi. Je te parle via le port adhésif. Je vais te sortir d'ici. »«
C'est stupide !»
tonna la voix de l'Ionien.
« Je suis désormais inutile. Je ne... »«
Tais-toi !» répliqua Manmut. « J'ai une corde. Il faut que je t'attache. Ou... »«
Il y a une prise de maître derrière ma grappe de capteur, » dit Orphu.
« Il n'y en a plus. »
Manmut n'était guère ravi à l'idée de planter un piton dans le corps d'Orphu, mais s'il fallait en passer par là...
« Eh bien... »
Orphu resta silencieux durant quelques terribles secondes, prenant de toute évidence conscience de l'étendue des dégâts.
« Un peu plus loin vers l'arrière, alors, » dit-il finalement. « Plus loin de l'explosion. Au-dessus de ma grappe de réacteur. »
Manmut n'eut pas le cœur de lui dire que les 10 réacteurs avaient été réduits à néant eux aussi. Il se propulsa d'un coup de pied, localisa la prise et y amarra sa corde avec un nœud à toute épreuve. S'il y avait un talent que le Moravec Manmut partageait avec les marins humains, ses prédécesseurs sur Terre pendant des millénaires, c'était l'art de faire des nœuds.
« Tiens bon, » dit-il à Orphu, « je vais te tracter, ne t'inquiète pas si nous perdons le contact. Je vais devoir compenser des vecteurs complexes. »
« C'est de la folie !»
s'écria Orphu d'une voix grésillante.
« Il n'y a pas assez de place dans la Dame Noire, et je ne te serai d'aucune utilité si tu réussis à me faire monter à bord. Je ne peux plus me tenir à quoi que ce soit. »«
Silence !»
dit Manmut de sa voix la plus calme. Il ajouta,
« Mon ami. »
Manmut activa simultanément tous ses réacteurs se dégageant du piton au même moment. Grâce à leur poussée, Orphu émergea de son berceau. Le mouvement du vaisseau fit le reste, et les deux Moraveks se retrouvèrent bientôt à 100 mètres de la coque. Son champ visuel occupé par des calculs vectoriels, sans parler du balai stroboscopique de Mars et du firmament, Manmut laissa la corde se tendre, puis activa ses réacteurs, consommant de l'énergie à un rythme phénoménal, alignant sa vitesse sur la vitesse de rotation du vaisseau et se laissant tracter en direction de la Dame Noire. La masse d'Orphu était considérable, et la rotation du vaisseau n'arrangeait pas les choses, mais la corde était à toute épreuve, et la volonté de Manmut aussi. Il se rapprocha obstinément de la porte ouverte du submersible. Le vaisseau spatial commençait à succomber aux tensions qui le déchiraient, et des fragments de sa poupe filaient près de Manmut, toujours accrochés à la carapace d'Orphu. 2 tonnes de débris métalliques passèrent à moins de 5 mètres de la tête du petit Moravec. Manmut entra dans la soute. Tout cela était vain. Le vaisseau se désintégrait autour de la Dame Noire, de nouvelles explosions secouaient la coque pendant que les chambres pressurisées cédaient l'une après l'autre et répandaient leurs gaz réactifs. Jamais Manmut ne pourrait rallier le submersible avant que celui-ci soit détruit.
« Bon, marmonna-t-il, c'est la montagne qui va venir à Mahomet. »«
Quoi ?»
s'écria Orphu, qui semblait inquiet pour la première fois. Manmut avait oublié que la liaison était toujours ouverte.
« Rien. Accroche-toi. »«
Comment puis-je m'accrocher, mon ami ? Mes manipulateurs et mes mains ont disparu. C'est toi qui t'accroches à moi. »«
Exact. »
Manmut activa tous les réacteurs du submersible, consommant l'énergie à un tel rythme qu'il dut faire appel aux réserves d'urgence. Mais il réussit son coup. La Dame Noire émergea de la soute enténébrée du vaisseau quelques secondes avant que le ventre de celui-ci se désagrège. Manmut poursuivit sa route et vit des gouttes de métal en fusion s'écraser sur la carapace déjà bien malmenée d'Orphu.
« Pardon !»
murmura-t-il en utilisant ce qui lui restait de carburant pour conduire le submersible tournant sur lui-même un peu plus loin du vaisseau à l'agonie.
« Pourquoi ?»
demanda Orphu.
« Peu importe. On verra plus tard. »
Manmut tira, poussa, manutentionna en bon moravec le gigantesque ionien, qui se retrouva bientôt dans la soute presque vide du submersible. Les ténèbres qui y régnaient étaient des plus apaisantes. Manmuth ne risquait plus d'attraper le vertige avec cette incessante gigue pour planète et étoile. Il fourra son ami dans le berceau principal, dont il activa les clamps réglables. Orphu était désormais en sécurité. Ils étaient probablement condamnés, tous les trois, la Dame Noire et les deux morts avec, mais au moins périraient-ils ensemble. Manmuth brancha le réseau com du submersible sur le port adhésif.
« Tu n'as rien à craindre pour le moment !»
octa-t-il, sentant ses éléments organiques prêts à céder.
« Je vais couper la communication maintenant.
Quoi ?»
Mais Manmuth avait déjà joint le geste à la parole et se dirigeait vers le sas de la soute. Il fonctionnait toujours. Mobilisant ce qu'il lui restait de force, il franchit le couloir dépressurisé conduisant à son environniche, passa l'écoutille, mais ne lança pas la pressurisation, préférant activer le dispositif de survie. L'O2 entra à flot. Le réseau com se mit à grésiller. Les systèmes du submersible rapportèrent des dégâts importants, mais supportables.
« Toujours là ?» demanda Manmuth.
« Où es-tu ? »
« Au poste de contrôle. »
« Quelle est notre situation, Manmuth ?»
Le vaisseau s'est désintégré à force de tourner sur lui-même. Le submersible est plus ou moins intact, y compris ses réacteurs avant et arrière et son bouclier de furtivité, mais je n'ai aucune idée de la façon de les contrôler.
« De les contrôler ?»
Visiblement, Orphu venait de comprendre.
« Tu as toujours l'intention d'entrer dans l'atmosphère martienne ?»«
Est-ce que nous avons le choix ?»
Une, deux secondes de silence passèrent pendant qu'Orphu réfléchissait à la question. Finalement, il déclara
« Je suis d'accord. Penses-tu pouvoir piloter cet engin pour entrer dans l'atmosphère ?»«
Aucune chance !» répondit Manmuth d'une voix presque joviale. « Je vais télécharger les logiciels installés par Koros et te laisser prendre les commandes. »
Manmuth entendit résonner un grondement familier, mais il eut peine à croire que son ami se laissait aller à rire.
« Tu plaisantes ! Je suis totalement aveugle !» Non seulement j'ai perdu mes yeux et mes caméras, mais en outre mon système optique est complètement cramé. Je suis dans un état lamentable. On pourrait me comparer à une cervelle rangée dans un panier percé. Dis-moi que tu plaisantes.
Manmuth téléchargea les programmes archivés dans les banques du submersible et relatifs aux réacteurs, aux parachutes, bref, la totalité du catalogue crypté. Il activa toutes les caméras du submersible, mais dut détourner les yeux. Pas question de s'exposer une nouvelle fois au vertige. Mars emplissait son champ visuel. La danse stroboscopique impliquait une calotte polaire blanche, une mer bleue et un coin d'espace noir. Et Manmuth faillit se trouver mal en la découvrant.
« Voilà !» dit-il comme le téléchargement s'achevait. « Je serai tes yeux. Je te fournirai toutes les données d'astrogation que le submersible collectera à partir de ses logiciels. Stabilise-nous et fais-nous décoller. »
Cette fois-ci, impossible de se méprendre sur l'hilarité d'Orphu.
« Oui, pourquoi pas? La chute à elle seule suffira à nous achever, bon sang !»
Obéissant aux commandes d'Orphu, les réacteurs fixés à la Dame Noire s'activèrent.